immédiate. Si l'enfant fait une bêtise, à notre avis, le matin, c'est pas le soir qu'il va se faire sanctionner. Il est dans l'instant, immédiat. Deuxièmement, par la personne concernée. C'est la personne qui est concernée, je vous le disais implicitement tout à l'heure, si l'enfant il fait des bêtises avec ses parents le week-end, c'est pas la professionnelle qui va sanctionner le lundi. Troisièmement, elle doit être cohérente. Cohérente, c'est-à-dire partagée en apparence par les personnes. J'ai bien dit en apparence. Parce que on n'est pas forcément, en tant que parent, par exemple, d'accord avec la façon dont l'autre sanctionne. Mais c'est très important, dans le but d'être efficace, que l'enfant ne soit pas témoin d'un désaccord. Hein, on en parle, mais à tête reposée. Idem si c'est entre parents et professionnels, mais sans la présence de l'enfant, en apparence cohérent. Quatrième élément, la sanction doit être expliquée, mais pas négociée. Ils sont meilleurs que nous, hein, en négociation. Donc si on négocie, c'est foutu. Ça veut dire pas expliquer pendant une heure, mais bien lui montrer le lien entre cette sanction et ça qu'il a fait et qui ne nous va pas. Le cinquième élément, elle doit être pas humiliante. La punition est humiliante, souvent. Il m'arrive d'aller encore en 2016 dans des écoles où je croise de temps en temps des enfants au coin, les mains sur la tête. C'est le Moyen-Âge. Hein, on évite le bonnet d'âne pour l'instant. Hein. Mais elle ne doit pas être humiliante. Pourquoi pas humiliante? Parce qu'un enfant qui est humilié, c'est pas efficace et il est encore plus provoquant. Ça demande ses chances de continuer les provoques. Point suivant, elle doit être proportionnée. Il m'arrive souvent de voir des enfants qui ont des petites engueulades pour de grosses bêtises et des grosses engueulades pour des petites bêtises. L'objectif étant, je me permets de leur dire, que ça soit compréhensible. Le point suivant, elle doit être réaliste. Réaliste. Les enfants mettront beaucoup de temps à avoir de l'humour. Ils ont beaucoup d'esprit. Mais l'humour, ça suppose comprendre au deuxième degré. Certains finissent leur vie, on n'en est toujours pas. Hein. Ça se peut. Les enfants ont de l'esprit. Mais au deuxième, ils en sont à comprendre au premier degré. J'animais un groupe de parole il y a quelque temps là-dessus avec des parents. Je demandais quelles étaient les sanctions pas réalisables que les parents prononçaient. Alors une dame me dit, ma fille, quand elle fait des bêtises, l'autre jour je lui ai dit, je vais te fiche par la fenêtre. Apparemment, ce n'était pas son projet. Hein. Mais, quoique, on a tous envie de ficher nos gamins par la fenêtre. Hein. Mais elle me dit, maintenant, elle fait toujours des bêtises, mais elle n'approche plus de la fenêtre. Dans le groupe, il y avait un papa aussi, qui dit, ben, moi, c'est mes deux fils. Hein. Quand je suis dans la voiture, sur l'autoroute, ils se battaient l'autre jour. J'aurais dit, si vous continuez, je vous abandonne à la station-service. Bah, il me dit, maintenant, quand je prends de l'essence, ils ne descendent plus, les mecs. Hein. Donc, une sanction pas réaliste peut être inefficace, mais aussi terrorisante, par définition. Le huitième point, elle doit être irréversible. Irréversible, une sanction prononcée, on ne doit pas revenir dessus. Sauf, et c'est le neuvième et dernier point, si on s'est trompé. Si elle n'est pas juste, si on s'est trompé de coupable, il n'y a rien de pire en termes de repère pour un enfant, que d'être, quel que soit son âge, que d'être injustement accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en parlant de crèche, je vais vous donner un exemple typique de ça. Dans une crèche, il y a quelque temps, je faisais une étude sur les violences en crèche. Je vais donc dans la section des moyens, et parce qu'il y en a plus, hein. Il y avait deux auxiliaires de puériculture, une dizaine d'enfants, ça a pu être long, hein, parce qu'il y a certains escarres qui peuvent se former en moins de 2 heures. Je vais donc dans cette crèche, dans la section des moyens. Il y avait une dizaine d'enfants qui étaient là, qui avaient tous à peu près 17-18 mois, et deux auxiliaires de puériculture. Les moyens, ceux qui se tapent dessus. Hein, ça met du temps d'apprendre à partager, à prêter. C'est rare de voir un enfant avant 2 ans, 2 ans et demi... qui est capable de prêter et de partager harmonieusement. C'est plus rare. Petite parenthèse d'ailleurs, on peut quand même aider les enfants à accélérer la sortie de la phase capitaliste. Je donne un exemple. J'étais dans une crèche il y a quelques mois à Saint-Germain-en-Laye, région parisienne, et j'ai vu un dispositif extraordinaire. Ils avaient mis dans la crèche une piscine à balles, vous savez, avec les petites balles rouges là-dedans, dans la section des bébés. C'était au mois de juin, au moment de Roland-Garros. Hein, c'est d'ailleurs le lien. Il y avait dans la piscine un capitaliste de 17-18 mois qui prenait les balles, qui les foutait dehors. Et à l'extérieur, un autre capitaliste du même âge qui prenait les balles qui étaient dehors, qui les foutait dedans. Ces deux-là, ils auraient eu un tricycle, ils se tapaient dessus. Mais alors là, c'était un match. Et c'est pour ça que je repense à Roland Garros, parce qu'il y avait trois bébés qui étaient dans des barbies relax, avec bavoir qui remonte. C'était pour les préparer la deuxième année. Vous avez un bavoir sous l'assiette, mais non, ça se fait plus dans les crèches. C'est que dans les maisons de retraite maintenant. Et donc, j'ai filmé, et vous aviez les trois bébés qui regardaient les balles. Il manquait que Belmondo. Vous voyez, hop, comme ça, extraordinaire. Hein. Donc, revenons à notre crèche là. Je leur dis aux auxiliaires, est-ce que vous avez des enfants plus agressifs que d'autres? Les deux en chœur me disent Enzo. Enzo, c'est un asocial. Alors, qui était Enzo? C'était un petit garçon de 17 mois, blondinet, qui avait pas l'air délinquant, mais il faut faire gaffe, hein, c'est les pires. Hein. Faut se méfier. Les bébés sont des délinquants. Hein. Je vous jure, j'adore aller dans des crèches, observer les gamins et les représenter, les remplacer par des adultes. Hein. Vous avez un petit garçon de un an et demi, qui voit une belle petite nana à croquer qui passe, et avec un petit sourire, il est mort. Vous vous rendez compte? Hein, si vous êtes en train d'attendre l'autobus, que vous avez un gars qui arrive avec un petit sourire qui vous moque, vous appelez la police municipale. Vous les mettez à table. Ils ont tous leur assiette. Ils commencent par bouffer dans l'assiette de droite, puis l'assiette de gauche. Et s'ils ont encore un peu faim, ils mangent dans la leur. Si vous êtes au resto et que vous avez une nana que vous ne connaissez pas à côté qui pique dans votre assiette, vous les fichez une tarte. Donc on est bien d'accord, c'est des délinquants. Enzo, bon. Asocial. Une des auxiliaires me dit qu'il doit y avoir un problème chez lui. Il n'accepte pas de partager avec les autres. Bon. La veille, alors on filme. On avait notre caméraman qui filmait. La veille, il avait dû avoir un stage d'éveil à la musique. Enzo, le délinquant, hein, il s'accroupit, il prend une flûte, il commence à jouer de la flûte. Arrive une petite nana, 17-18 mois, face capitaliste, c'est à moi, c'est pas à toi. Elle lui pique sa flûte. Oh! Dit notre caméraman, il dit va la tuer et tout. Hein. Il était prêt à zoomer. Hein. Il dit je vais être dans le bêtisier. Il nous dit oh, ça va être génial. Enzo nous étonne, la sociale. Il fait rien. Il vient de se faire piquer sa flûte, il réagit pas. Il s'accroupit, il reprend une deuxième flûte et commence à jouer. La même petite nana se repointe, pac, elle lui pique la deuxième. Alors on dit va la tuer. Que dalle. Ce môme, 17 mois. C'est la première fois que je vois un enfant dans cet état-là, à cet âge-là, cet enfant qu'on disait en retard sur le plan social. Vous allez voir qu'il était en avance. Il prend deux flûtes, il va voir la petite nana et en propose une pour jouer ensemble. Il invente le duo. C'est sans doute la seule fois de ma vie où je verrai une telle scène. Mais la petite nana qui était dans le creux de vague à fond, c'est à moi, c'est pas à toi, Madame Tapie, quoi. Hein, eh bien... Elle prend les deux. Alors là, Enzo pique un coup de sang. Il prend un maillet, boum, un coup sur la tronche. Elle pleure. Et on a un film sensationnel. Une auxiliaire se retourne et dit, c'est encore lui. Mais qu'est-ce qu'il a dans la peau, ce gamin-là? Quand on leur a passé le film, elles n'étaient pas fières, mais elles avaient tort. Parce que, et c'est ce que je vous dis là, on parle de crèche, mais ça concerne l'assistante maternelle, ça concerne un parent. Si à la maison, en tant que parent, on a trois gamins, mâles ou femelles, et qui sont en conflit, il y en a peut-être un qui va venir en nous demandant de régler le conflit, c'est peut-être celui qui a fichu la pagaille. D'où l'intérêt de les laisser aussi gérer le conflit. Et surtout, quand on a plusieurs enfants et qu'on fait un tas de trucs, on ne voit pas forcément comment ça commence. N'est-ce pas? Alors rassurez-vous, l'histoire finit bien pour Enzo. C'était une crèche très traditionnelle. Hein. Il fallait avoir 2 ans pour passer chez les grands. Il avait 17 mois, donc il était condamné à rester 7 mois avec les moyens. Alors maintenant que vous êtes psychologue, vous savez couper le mot passage, passe-âge. Eh bien, on a fait un passe-âge anticipé, à savoir qu'on l'a mis chez les grands, bien qu'il n'ait que 17 mois. Et cet enfant, en quelques jours, il a cessé, repère, d'être agressif parce qu'il avait autour de lui des enfants avec lesquels il pouvait échanger. Alors, on n'a pas le temps d'aborder beaucoup d'autres choses, mais encore un point. C'est un éclairage sur les repères familiaux. Les repères familiaux, on va en éclairer deux seulement, très rapidement. Le premier repère, c'est on l'a dit tout à l'heure, est-ce que je suis aimé? On n'est plus dans le tel que je suis. Est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce que la assistante maternelle m'aime? Est-ce que la référente m'aime, hein? Est-ce que je suis aimé? Moi, je suis un enfant, j'ai un père, une mère à la maison. J'ai un père, il travaille beaucoup. Il part très tôt le matin, je dors encore. Il rentre très tard le soir, je dors déjà. Un enfant, c'est une boule d'amour, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est aussi une boule de culpabilité. Il est persuadé, souvent et pendant longtemps, que tout ce qui arrive autour de lui, c'est de sa faute. Je me demande si c'est pas à cause de moi que mon père part toujours. Je ferais bien une vérification d'amour pour savoir s'il m'aime. Il y a le vieux à la crèche, le redoublant. J'en ai parlé. Je lui dis, je crois que mon père, il m'aime pas. Oh, il me dit, moi aussi, je fais souvent des vérifications d'amour. Je lui dis, comment tu fais? Il me dit, c'est très simple, il faut leur faire peur. Tu fais peur aux parents. Petite parenthèse, si vous avez un ado à la maison, vous pouvez transposer, ils font ça aussi, hein. Vérification d'amour. Donc, tu leur fais peur. Mais je dis, comment tu fais avec le tien? Oh, moi, c'est très simple. J'ai un petit escalier qui mène au grenier. Donc, dès que je fais une vérification d'amour, je monte 4 marches, quand mon père est là, je hurle. Il arrive, il dit, oh là là, faut le faire descendre. Il me fait descendre. Il dit, à un moment, faut qu'on mette une barrière. Je sais qu'il n'est pas prêt de mettre la barrière, donc je peux refaire le mois d'après une vérification d'amour. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi aussi, j'ai une petite barrière. J'ai un escalier. Le soir, j'attends que mon père rentre. Je monte 4 marches, je hurle. Mon père arrive, appelle maman et dit « Regarde, il arrive. » Un bille. Incroyable. J'ai engueulé le lendemain. J'ai dit « T'es un bouffon, toi. » Ah, il m'a dit « Non, non. » Très instruit, un copain. Il me dit « C'est parce que, tu sais, les parents, les adultes, ils n'ont pas tous les mêmes trucs en tête. Le mien, c'est un anxieux. Quand il voit un petit banc, il déclenche le plan hors sec. Donc, si je monte l'escalier, il a les jetons. Le tien, c'est un sportif. Donc, il est persuadé que assurer ta sécurité, c'est te permettre de prendre des risques calculés. Faut faire autre chose. Essaye d'autres trucs. Les peurs nocturnes. T'as essayé? Oh, je dis le mien, il prend de l'imovane, il roupille. Il en prend avant de manger, il dort à table. Bon, c'est désespérant, ton père. Mais dites le soir, ton père, quand il rentre, qu'est-ce qu'il demande? Je dis, il n'y a qu'un truc qu'il demande. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que j'ai bien mangé? Il me dit, c'est bon, tu bouffes pas. Tu vas bien voir l'effet que ça lui fait. C'était pas idiot. Alors le soir, coup de bol, mon père rentre de bonne heure, entreprendre me donne à manger, me demander à manger de la purée. Je m'installe dans le baby relax. Il me dit, une cuillère. Vérification d'amour. Je dis, non. Oh, il devient vert. J'imaginais pas qu'il m'aimait à ce point-là. Une demi-cuillère. Non. Oh, il devient encore plus vert. Ça me rassure. Mon projet, c'était de plus bouffer de la semaine. Pour être sûr qu'il m'aime. Mais il y a eu un rebondissement dans l'affaire. Figurez-vous, le lendemain, ma grand-mère va chez le docteur pour renouveler son ordonnance contre le cholestérol. Vlatipok, elle tombe sur un article, l'anorexie mentale. Heureusement, elle est toute seule dans le cabinet du docteur. Elle découpe en toussant, pour pas que le docteur entende. Et sous la lampe de la cuisine, vous avez le père, la mère, la grand-mère en train de lire l'article. L'anorexie mentale. Je me dis, je vais pas bouffer pendant 3 semaines. N'est-ce pas? Vous pouvez transposer ça avec des ados qui sont aimés, mais qui sont pour certains et à certaines phases des boulimiques d'amour et qui vont vouloir jouer sur les peurs, qui savent où là où ça fait mal. C'est la bataille navale, hein, des fois. On touche là où ça fait mal, mais il ne faut pas que le parent coule. C'est évident. Hein. 2 choses, vous disais-je, simplement, les repères familiaux. Premièrement, est-ce que je suis aimé? L'autre, c'est l'identification. L'identification, on a parlé tout à l'heure d'identité narrative, je suis l'enfant de qui? On parle d'identification positive. Un enfant ne peut se construire qu'en s'identifiant à des parents, à des personnes positives. Positives, n'est-ce pas? Vous rencontrez dans la rue une amie, ou vous êtes à l'assistante maternelle, vous avez une maman qui est seule avec un enfant, un petit garçon, et elle vous dit, il n'a pas de père. Les 2 mots clés de cette identification, c'est le mot lisible et le mot constructible. L'enfant ne peut construire des repères identificatoires que si on lui donne des informations lisibles et constructives. Il n'a pas de père. Ça vous étonne. C'est extrêmement rare qu'une femme seule puisse faire un enfant toute seule, techniquement. Et donc, il est peut-être né par procréation médicalement et assisté, etc. N'empêche qu'il y a quelque part un un père qu'il ne verra pas. C'est ce qu'on appelle un parent materio, materio. La mère, dans ce cas-là, est une mère matérielle, c'est elle qui est là. Mais dans la tête, pour la construction de l'enfant, c'est important d'avoir deux parents, notamment un parent matériel. Il n'a pas de père. Faites gaffe quand même, il y a une exception tous les 2000 ans. C'est important. Il y a 2000 ans, regardez Marie, j'ai rien contre, mais elle ne bossait pas, hein. Elle l'avait déjà mis en crèche. C'est incroyable. Alors je vous dis ça parce que, vu la belle région que vous habitez, si ça se trouve le prochain, il va venir dans le coin. Hein. Pour les asthmates, c'est mieux, mais si vous bossez en crèche, ouvrez l'œil. Hein. Faut pas le foutre dehors. Vous vous rendez compte, si on l'avait viré il y a 2000 ans, on aurait eu l'air con. Hein. Et donc, il n'a pas de père. Eh bien, qu'allez-vous faire? Pour aider l'enfant à construire des repères, vous allez encourager la maman à parler, à mettre quelques mots d'identification là-dessus. Mais cette maman, constructibilité, constructible, elle confond sa querelle de femme et l'image qu'elle véhicule de ce père. Et elle vous dit, ah ben celui-là, son père, c'est le dernier des derniers, si je le vois, je le passe à la Kalachnikov. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il est parti, il m'a dit, tu te débrouilles. Essayez de dissuader cette maman de dire des choses pareilles. Libre à l'enfant un jour de se faire un avis sur ce père, mais dans un premier temps, lui faire croire que son père, c'est le dernier des derniers, que ce soit vrai ou faux, lui-même se met à se croire lui-même négatif, parce qu'il est l'enfant de ce personnage. D'où l'intérêt de ne pas disqualifier l'enfant. Alors, comment conclure? Ah ben, ça n'est pas de mal, hein. Je conclurai juste à travers un truc, les repères, sur la lenteur des repères et sur la notion de session de rattrapage. Je vais vous prouver scientifiquement qu'il y a des sessions de rattrapage. Figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, j'avais été amené à travailler dans une commune à côté d'Orléans sur la violence dans le quartier, très très violent, et de voir comment diminuer la violence des jeunes dans le quartier. On avait rencontré plein, dont certains en milieu semi-carcéral, c'était du lourd. On a proposé à la mairie un certain nombre de suggestions pour diminuer l'agressivité dans le quartier, et elle n'en a pas tellement tenu compte. La mairie a eu l'idée de faire une ludothèque pour adoucir les mœurs des jeunes. Je dois dire que j'y croyais pas des masses quand même, au vu de la tronche des mômes du quartier. Ludothèque. Mais j'ai quand même été à l'inauguration. Je vais toujours aux inaugurations parce qu'on mange très bien. Et les buffets sont très bons, souvent, mais rien. Et alors, la ludothèque. J'entre, c'était un F4 au rez-de-chaussée, couleur pastel, pas la tronche du quartier. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est décalage. Décalage. Je voyais les jeunes qui étaient assez mal en point autour, hein, bagnole sur cale et tout. Décalage. Couleur pastel, et au fond, il y avait les petits fours. Dans la quatrième pièce, au fond, deux ludothécaires, la tranche pas du quartier non plus. Vous voyez, un peu à une tranche à vendre des cartes pour l'UNICEF. Vous voyez, non, je dis ça, c'est à cause de ma femme. Vous dites pas, je vous l'ai dit, mais elle est très bien, mais elle a deux défauts. D'abord, elle est instite, je vous l'ai dit, hein, mais surtout, elle est bénévole à l'UNICEF. J'ai hâte de pas être en novembre, hein, parce qu'on est bardé de cartes postales. On ne peut plus rentrer chez nous. Acheter les cartes de UNICEF pour libérer les maris. Hein. Si on a deux mois où on ne peut plus rentrer. Enfin, c'est terrible. Mais elle est très, très chic. Elle est propre. Elle a des belles chaussures Mephisto. Elle boit du thé chez Mariage. Enfin, vraiment très, très bien. Et bien, les deux ludothécaires, la même tronche que ma femme. Pas du quartier, vous voyez. Une voix d'une douceur qui devait la veille leur servir pour dire à leurs amis... Vous prendrez bien un peu de thé, c'est du Darjeeling de chez Mariage. Vous voyez, bon, décalage. Je me dis combien de mois va durer la ludothèque. Je me faisais une perspective. Il y avait les boîtes de jouets tout autour qui n'étaient pas encore ouvertes. Arrivent trois loubards, 13-16 ans, qu'on connaissait. Il y en avait deux de 13 ans et un de 16 ans. C'était le chef, à Frange, Santiago, le chef de cow-boy. Qu'est-ce que c'est ici? Je me dis, c'est peut-être une question de semaine, là. Vous voyez, on réduisait le pronostic. L'une des ludothécaires, avec une voix qui dit douce, hein, mes enfants, c'est une ludothèque. Mes enfants, c'est pas ce qui vient à l'esprit, vous voyez, des enfants comme ça. Hein, ça fait longtemps que je n'avais pas dû être appelé mes enfants. C'est une ludothèque. Qu'est-ce que c'est une ludothèque, les loupards? La deuxième, avec une voix tout aussi douce que la collègue, elle sort un carton. Voyez-vous, mes enfants, il y a des jouets. D'ailleurs, vous pouvez venir jouer avec vos camarades. Je me dis, les suicidaires, là, parce que on était trois, ils étaient 15. On était 15, ils étaient 3. On avait déjà les jetons. Mais s'ils viennent avec leurs camarades, on se barre tout de suite. Hein. Tant pis pour les petits fours, on achètera des lèmes. Hein. Troisième et dernière question des loupards, on peut vous aider à ouvrir les boîtes. Mais oui, mes enfants, ouvrez donc les boîtes. Nous, on va manger les petits fours dans la pièce du fond. Et on n'entendait plus rien. Petite parenthèse, j'avais jamais remarqué à quel point des Santiago, les chaussures de cow-boy, ouvraient bien les boîtes. Hein. Poum, des coups de latte là-dedans, ça a implosé la boîte. On était tous avec nos petits fours dans la pièce du fond. On n'entendait plus rien dans la pièce de devant. Que les genoux des ludothécaires qui jouaient les castagnettes, en disant, ils se sont barrés avec les jouets le premier jour, que va dire la mairie? Alors il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous êtes psychologue, c'est toujours vous qu'on envoie voir. Alors maintenant j'ai repéré, je fais le courageux, vous voyez. Avant qu'on me le dise, je dis, je vais voir. Mais j'y vais, je pousse un peu la porte, et ben heureusement que je n'ai pas fait de bruit, ils étaient encore là. Je vous ai parlé tout à l'heure de session de rattrapage. Je vais vous en donner un exemple concret. Vous me croirez ou non, je vous jure que c'est réel. Ils étaient là, mes trois loupards, là. Ils avaient sorti d'un gros carton un landau. Ils avaient sorti d'un autre carton un gros goldorak. Comme ça. Ils avaient foutu goldorak dans le landau. Le chef des loupards, il berçait goldorak. Et les deux autres, les mains dans le dos, comme l'Angélus de Millet, ils regardaient goldorak. Ils m'ont pas entendu, heureusement. C'était tellement ridicule qu'ils auraient été cassés, on aurait été cassés sur le champ. Je suis retourné et j'ai dit, ça fait plus de 10 ans ça. Je suis retourné, j'ai dit au ludothécaire, elle ne sera pas cassée votre ludothèque. Pourquoi? Parce que vous aurez 3 gardiens. Pourquoi? Parce que c'est pas 3 loupards que je viens voir, c'est 3 petits loupiots qui sont en train de repasser une unité de valeur. Cette ludothèque est à côté d'Orléans. Eh bien, vous pouvez la voir. Et les gamins du quartier, ces gamins-là, ils ont monté un atelier de fabrication de jouets pour les tout-petits. Et en même temps, en repassant eux-mêmes un certain nombre de choses. Alors, comment conclure? Eh bien, la vraie conclusion, je la laisserai à un petit gamin, Adrien, le plus jeune prof de psycho que j'ai eu dans ma vie. Adrien, il avait 4 ans, c'est un très jeune prof, mais qui a foutu en l'air ma carrière de psy. Il m'a donné un cours incroyable. Adrien, c'était le fils de copain chez qui, en région parisienne, c'était à Gisors, pas loin de Paris, où on est allé avec ma femme passer le week-end. Arrivé chez eux, Adrien m'invite à un jeu, il avait à peine 4 ans, hein, qui consiste à, avec une épuisette, à choper des graviers et leur donner des noms de poissons. Mais on était sur, dans le jardin. Hein. Alors on s'assoit sur les marches, sur l'escalier qui mène dans le jardin. Adrien chope 2 graviers, il me dit, c'est un requin et une baleine. C'était pas vrai, hein, il n'y avait pas de baleine, mais c'est l'imaginaire, la créativité, le cerveau droit. Hein. Je fais, oh oui, la belle baleine. Il rechope un 2e gravier, il chope une carpe, il me dit, c'est une carpe. Les enfants ont droit à 2 coups. Hein. Je me dis, bon niveau de langage. Il aura un bon bac, il avait à peine 4 ans. Il me dit, à toi, je prends l'épuisette et je lui dis, je vais pas jouer pour jouer, il faut jouer pour apprendre. C'est de l'humour. Hein. Je vais lui apprendre un mot nouveau. Je chope 1 gravier, puis je pense au mot esturgeon. C'était une époque où j'étais un tiers-mondien, récupérable. Je dis à Adrien, moi, c'est un esturgeon. J'étais sûr de mon coup. Hein. Et bien, qu'est-ce que c'est qu'un esturgeon? J'aurais parlé de la mer Baltique, du caviar, enfin, tout le truc, vous voyez. J'étais prêt à passer en CM2, le mot mon niveau, hein. Eh ben, il a foutu en l'air ma carrière de psy. Je vous supplie de croire cette histoire parce qu'elle est vraie. Il s'est penché sur mon épuisette, estomaqué, et il m'a dit, ça va pas la tête, toi c'est un gravier. Vous voyez le niveau. Il était en train de me dire quoi? Il était en train de me dire quelque chose qui, dans ce thème, rôle des adultes dans la construction des repères chez l'enfant, était essentiel. Toi t'es un adulte, assume. T'es pas mon copain, t'es pas mon frangin. Pensons à des parents qui voudraient être copains de leurs enfants. Le seul rôle qu'un enfant peut avoir pour construire des repères vis-à-vis de ses parents, c'est d'être l'enfant de ses parents. Aucun enfant ne peut être le conjoint de ses parents. Aucun enfant ne peut être le copain. Aucun enfant ne peut être le parent de ses parents. Ni une solution, ni un pitching ball, ni un thérapeute, n'est-ce pas? aidons les parents à être adultes, à accepter d'être adultes, et puis à être des fois des méchants adultes qui savent dire non. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions par rapport à... pour les survivants? Merci bien.